Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Ainsi soit-il.
Les préceptes du Seigneur sont droits, ils mettent la joie au cœur. Ses jugements sont plus doux que le miel des rayons, et votre serviteur de les garder fidèlement. Mes très chers frères, les textes de la messe de ce 9e dimanche après la Pentecôte sont empreints de la douceur de notre Dieu qui est si bon pour ses enfants. L'Église nous exhorte et elle nous console à la fois. Nous entendons des choses terribles, mais la grâce nous est donnée pour en profiter, de sorte que nous ne nous laissions pas abattre dans la voie, à la vue de notre méchanceté native. Il y a plein de choses qui nous encouragent dans ces textes de la messe d'aujourd'hui, et comme nous le voyons de l'Évangile, l'Évangile rayonne sur tous les autres textes de la messe d'aujourd'hui, de telle sorte que cette compassion que de notre Seigneur sur Jérusalem se répand sur nous-mêmes aussi, si nous savons en profiter. Alors nous avons plusieurs choses à voir aujourd'hui avec l'aide du Saint-Esprit. Tout d'abord, nous allons voir certaines leçons de telle sorte que nous apprenions la charité à l'école de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous verrons rapidement aussi quelques fausses idées qu'on se fait de la charité. Il y a encore autre chose à voir, c'est la stérilité de la colère humaine. En deuxième point, nous verrons que la présomption conduit au châtiment. Et c'est ainsi que nous devons apprendre à refuser, à résister à la tentation grâce à l'exemple de nos pères. Et enfin, nous terminerons en apprenant à prier avec l'Église de façon à être exaucé. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
En ce temps-là, Jésus, qui était arrivé aux abords de Jérusalem, voyant la ville, pleura sur elle, en disant, « Ah, si du moins, en ce jour qui t'est donné, tu connaissais ce qui peut te procurer la paix. Mais maintenant, tout cela est caché à tes yeux. » Notre cher frère, au moment de son entrée triomphale à Jérusalem, car c'est juste avant le dimanche des Rameaux, au moment de son entrée triomphale à Jérusalem, notre Seigneur verse des larmes de compassion sur cette ville et ses enfants. Vous savez que les grands prêtres, les scribes et les pharisiens ont rejeté notre Seigneur, ils l'ont fait mettre à mort, ils ont excité Pilate, qui était persuadé de son innocence, à autoriser sa crucifixion. Et vous savez aussi que cela s'est passé, disons, en environ l'année 33, et en 70, donc une génération après, cette ville de Jérusalem a été entièrement détruite, d'une façon qui est à la fois la plus terrifiante de presque de toute l'histoire, et en même temps la plus aussi involontaire. Vous savez que le général romain n'avait pas en vue de détruire la ville de fond en comble. Mais après l'avoir conquise, un soldat a en quelque sorte lancé une torche quelque part, et cette torche a mis le feu à la ville, de telle sorte que cette ville a été entièrement ravagée de fond en comble, et ensuite les Romains l'ont démantelée afin qu'elle ne devienne plus jamais un foyer de révolte de la part des Juifs. Et quant aux Juifs, vous savez que l'historien Joseph nous apprend dans quelles circonstances absolument atroces, à la fois extérieures et intérieures, ils ont péri, puisque ceux qui étaient encore vivants au moment où les Romains sont entrés dans la ville, ont été emmenés en captivité, enfin ils ont été vendus comme esclaves en réalité, tandis que les autres s'étaient entre-massacrés pendant le siège, c'est-à-dire que la méchanceté des habitants de Jérusalem était telle qu'ils se sont livrés les uns contre les autres à toutes sortes d'exactions. On peut lire ça, et chaque fois que l'on lit ça dans l'historien Joseph, les cheveux se dressent sur la tête de voir à quel point l'homme peut être méchant et mauvais envers son prochain, et surtout au sein même de la cité sainte. Donc, notre Seigneur, prévoyant tout ceci, pleure et verse des larmes sur la ville de Jérusalem. Telles, nous dit un auteur, telles sont les larmes, de douleur, la douleur, la compassion et les larmes de notre Seigneur Jésus-Christ sur une âme qui se perd par sa propre malice. Ils savaient que la ville de Jérusalem devait être détruite à cause de ses iniquités, elle qui a tué les prophètes et qui a crucifié le Fils éternel de Dieu. Ils savaient qu'elle devait être punie, et pourtant il ne triomphe pas, il ne dit pas des paroles de menace en disant qu'on verrait bien qui rira le dernier, rira bien qui rira le dernier. Notre Seigneur pleure et il pleure sincèrement. Il y a là quelque chose de mystérieux que nous ne devons pas négliger et sur lequel nous ne devons pas passer trop vite. Nous ne devons pas voir cela comme une sorte de vestige d'une mentalité vétérotestamentaire dont notre Seigneur ferait preuve et qui serait absurde de sa part, ce qui est quand même, si nous pensions cela, ça serait quand même quelque chose d'extraordinaire puisque nous ferions la leçon au Fils de Dieu, ce qui est quand même la pire des sottises, pour dire le moins, des insolences. Notre Seigneur pleure véritablement sur cette ville et il lui dit, assidûment en ce jour qui t'est donné, tu connaissais ce qui peut te procurer la paix. Elle est dans l'ignorance. Et cette ignorance est volontaire. Et en même temps, nous savons que providentiellement, cette ignorance a été provoquée par Dieu afin que le salut se répande sur le monde entier. Mais il dit, assidûment en ce jour qui t'est donné, tu connaissais ce qui peut te procurer la paix. En ce jour qui t'est donné, c'était le jour de la rédemption, c'était le jour du salut. Et sous un certain rapport, notre Seigneur n'a pas été méconnu puisqu'il a été acclamé comme le fils de David, celui qui venait au cri des Hosanna, qui venait de la part de Dieu. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, chantaient la foule et les enfants, en agitant des palmes et des rameaux et en mettant leurs vêtements sous les pieds de son ânon. Eh bien, il y a eu une connaissance superficielle du jour du salut, mais ce n'est pas une connaissance qui a suffi à sauver cette ville. Eh bien, mes très chers frères, notre Seigneur connaissait la malice des Juifs et leur aveuglement. Et pourtant, lors de sa résurrection, il n'a pas eu un seul mot de triomphe pour exprimer la satisfaction qu'il avait d'être ressuscité alors qu'il l'avait tué si malicieusement. Apprenons quelque chose de la part de notre Seigneur. Apprenons deux choses. Premièrement, que le spectacle d'une âme qui se perd est véritablement quelque chose qui doit exciter notre charité. C'est-à-dire que nous devons nous garder des infidèles, nous devons nous garder de ceux qui périssent, nous devons nous garder très soigneusement, et c'est un devoir pour les prêtres, pour les évêques, pour les pères de famille, de garder et de protéger leur famille contre toutes les turpitudes et toutes les horreurs de ceux qui font le mal dans le monde. Et pourtant, notre charité doit verser des larmes sur eux. Des larmes à l'image de notre Seigneur. C'est-à-dire des larmes qui sont des larmes qui n'excluent pas par ailleurs le fait que Dieu les avertit qu'ils seront châtiés s'ils ne font pas pénitence. Ce sont des larmes qui n'excluent pas le fait que, selon notre état, nous devons prêcher à ces personnes-là et les avertir de la voie de perdition sur laquelle elles sont. Mais nous devons véritablement pleurer sur elles. Pourquoi devons-nous pleurer sur elles? Eh bien, mes très chers, c'est très simple. Nous ne pouvons pas pleurer comme le Fils de Dieu a pleuré, puisque le Fils de Dieu est unique. Mais il nous a appris à pleurer sur les âmes qui se perdent. C'est-à-dire à avoir compassion d'elles, à notre niveau, comme ou à l'imitation de la compassion que Dieu a eue vis-à-vis de nous. Nous serions comme eux si Dieu n'avait pas eu compassion de nous. Nous serions comme eux si le Christ n'avait pas versé son sang pour nous et ne nous avait pas rachetés. Qui salvandos salvas gratis, dit l'hymne, la séquence Dies Irae. Vous qui sauvez gratuitement ceux qui doivent être sauvés. Notre Seigneur a pleuré sur nous, sur notre perte, de telle sorte que lorsqu'il nous a attirés à lui, nous sommes venus à lui et il nous a accueillis, puisqu'il dit, tout ce que le Père me donne vienne à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. C'est toute le mystère de l'éternelle prédestination et de la liberté humaine. Notre Seigneur a reçu de son Père tous ceux qui devaient être sauvés, et tous ceux qui s'approchent de lui pour lui demander le salut ne sont pas mis dehors par notre Seigneur. Il y a là quelque chose qui est magnifique et qui devrait déjà nous faire verser des larmes de reconnaissance envers notre Dieu. Donc vous voyez, il y a une attitude qui est une attitude prophylactique, qui doit nous faire nous protéger par tous les moyens possibles, autant que cela dépend de nous, et nous devons de toutes nos forces nous y efforcer de nous préserver de la contagion du mal. et de l'influence du monde, et c'est une des marques de la piété dont parle l'apôtre, et en même temps, nous devons avoir compassion de ces gens. Compassion de loin, mais compassion réellement. Nous ne pouvons pas, alors vous allez dire, comment est-ce que ça se manifeste concrètement? Nous ne pouvons pas, mes très chers frères, ricaner sur le monde qui se perd. Nous savons que le monde se perd, nous savons que Satan est le maître du monde et qu'il est le prince de ce monde. Et pourtant, nous devons pleurer sur le monde, pleurer car c'est la seule façon de nous protéger de l'entraînement du monde. Si nous pleurons sur lui, comme le Christ a pleuré sur Jérusalem, alors nous nous dissocierons de lui. Voyez-vous, on peut ricaner par rapport au monde et faire exactement la même chose. Je donne un exemple, malheureusement. Malheureusement, c'est une chose qui existe et qui est patente. On ricane du fait que la télévision est remplie d'ordures et d'imbéciles et que tous les programmes sont truqués, etc. Bon, d'accord. Mais il se trouve qu'à la première occasion, on fait exactement les mêmes programmes, sauf qu'ils ne se sont pas faits par des imbéciles puisqu'ils sont faits par nous. Et nous ne sommes pas imbéciles. Voyez. Donc on ricane sur la corruption et l'hypocrisie du monde, et en réalité, on ne cherche par tous les moyens qu'à faire exactement comme eux, avec la seule différence que ce n'est pas eux, mais c'est nous qui le faisons. Voyez, il y a plein de gens qui se lancent dans toutes sortes de choses, il y en a qui ont les moyens, donc qui font des télévisions parallèles, il y en a d'autres qui font des chaînes, que sais-je, et qui ont leurs programmes, leurs émissions, où là on peut dire la vérité. Le fait est que quand on est bien attentif à ce qu'ils disent, on s'aperçoit qu'ils sont, dans le domaine de la religion, aussi scandaleux que les autres le sont dans le domaine de l'humanité, en quelque sorte. Je n'entre pas dans les détails par compassion et par charité, mais vous voyez, c'est exactement la même chose. Celui qui ricane sur le monde qui se perd est mondain. Celui qui pleure sur le monde qui se perd se protège du monde et se garantit du monde. Pourquoi? Parce que, étant un avec le Christ qui pleurait sur Jérusalem, il est donc en quelque sorte de l'autre côté de la muraille, même très réellement, il est de l'autre côté de la muraille et il ne risque pas d'être, si Dieu le permet, emporté par les tentations du monde et par la malice du monde. Dieu voit les effets dans les causes. Il voyait la ruine de Jérusalem avant même que les Juifs aient réussi à concrétiser leur machination contre le Messie. Mais il connaissait donc la malice des Juifs et leur aveuglement, et il nous enseigne par ses larmes à ne pas désespérer de la conversion des pécheurs. C'est pour cela que nous avons un certain nombre de gens pour lesquels nous sommes tenus par devoir de prier, nos parents, nos proches, les gens qui nous tiennent de près, disons, qui sont en lien avec nous, de près ou de loin. Nous avons à prier pour les autorités du pays dans lequel nous habitons, dans les autorités de la ville dans laquelle nous habitons, afin qu'ils nous soient favorables, comme dit le prophète. Donc nous avons à prier pour des gens, pour un certain nombre de gens, c'est un devoir. Nous devons prier pour eux, et notre prière doit être une transposition, en quelque sorte, des larmes de notre Seigneur. C'est-à-dire que, sincèrement, nous devons prier pour qu'ils se convertissent. Ça ne veut pas dire que nous devons être d'accord avec ce qu'ils sont. Nous ne devons pas prêter la main à ce qu'ils font contre la loi de Dieu, mais nous devons avoir un réel désir qu'ils se convertissent. Si nous avons, encore une fois, un réel désir qu'ils se convertissent, nous ne risquerons pas d'être entraînés par eux. Si nous voulons vraiment qu'ils se convertissent, alors quelle plus grande affirmation du fait que nous sommes dans la vérité par la grâce de Dieu et que eux sont dans l'erreur. Si nous ne prions que pour le fait qu'ils nous laissent tranquilles ou qu'ils aient de meilleures idées politiques ou qu'ils prennent conscience de certaines choses, bon, c'est pas interdit de prier pour ça, mais disons, si on prie uniquement pour ça, d'une certaine manière, nous allons nous retrouver en quelque sorte des dissidents de ces gens-là. Et les dissidents ne sont jamais que des gens qui ne sont pas d'accord sur certains points. Vous voyez, les dissidents en Union soviétique n'étaient pas des capitalistes, c'était simplement des marxistes d'un autre type. Et c'est la même chose pour les modernes. Les dissidents de la modernité ne sont jamais que des modernes qui pensent et qui souhaitent une autre modernité. Mais après tout, c'est toujours la modernité. Donc nous-mêmes, mes très chers frères, nous devons prier avec des larmes, au moins des larmes du cœur, pour ceux pour lesquels nous devons prier, pour tous ces gens dont j'ai parlé, donc notre famille qui n'est pas croyante, pour le gouvernement, pour les puissances, les autorités auxquelles nous sommes soumis et dont nous dépendons, nous devons prier afin qu'ils se convertissent. De telle sorte qu'en priant pour leur conversion, nous prions aussi pour leur bien-être, puisque nous leur souhaitons le meilleur pour eux. Et souhaitant le meilleur pour eux, nous souhaitons aussi tout le reste, si Dieu le veut. Ainsi, du moins, en ce jour qui t'est donné, tu connaissais ce qui peut te procurer la paix. Alors vous allez dire, mais ce que vous nous enseignez est finalement une attitude très iréniste, où on ne conteste plus, on est simplement... On est quoi exactement ? Je viens de dire que nous nous protégeons des gens pour lesquels nous prions sincèrement. Vous voyez, comment protéger ces enfants de la famille qui n'est pas croyante, sinon, alors il y a toutes sortes de moyens bien entendu, mais aussi en faisant prier les enfants pour la conversion des parents, de la parenté qui n'est pas catholique. Si nous disons simplement, ils ne sont pas catholiques, ils sont méchants, ils sont mauvais, ce sont des républicains, ce sont des ci, ça et l'autre, qu'est-ce que ça veut dire pour l'esprit d'un enfant qui n'est pas encore formé ? Qu'est-ce que ça veut dire ? On va lui imprimer un certain vernis, mais vous allez voir que lorsqu'il grandira, il se peut très bien, ou bien qu'il continue avec ce vernis, et ça sera finalement un vernis superficiel, ou alors il va le rejeter pour diverses raisons, malheureusement, et ça ne sera pas mieux, sa situation ne sera pas meilleure. Tandis que si vous dites, voilà, il y a oncle un tel, il y a papy un tel, mamie un tel, etc., qui ne sont pas catholiques, ils sont sur le chemin de la perdition, prions pour leur âme, eh bien, l'enfant va maintenir à la fois l'honneur pour les parents, c'est-à-dire qu'il va honorer ses parents, ses grands-parents, sa famille, dans un sens tout à fait normal et ordonné, bien entendu, autant que cela se peut. Et en même temps, en priant pour eux, il va développer la conscience que ces gens-là sont dans un autre monde. Ils sont dans le monde de Satan, alors que nous sommes dans le monde de Dieu, et qui est le monde normal, le monde dans lequel nous désirons véritablement que tous les hommes se trouvent. Nous n'excluons du salut aucun homme. Nous prions pour la conversion de tous les hommes. Mais en même temps, en priant sincèrement pour eux et en versant des larmes sur ces gens qui se perdent parce qu'ils sont malicieux et qu'ils sont mondains, nous nous protégeons de leur malice et de leur mondanité. Vous voyez comment notre Seigneur, mes très chers frères, nous enseigne à nous garder du monde en ayant compassion du monde. Cette compassion ne va pas jusqu'à inviter des tas de mondains à votre table sous prétexte de les évangéliser en les traitant bien. Ça n'a rien à voir avec cela. Nous prions. Notre Seigneur a vu la ville de Jérusalem et il a pleuré sur elle et même il lui a dit des paroles finalement d'une certaine manière qu'elle n'a jamais entendues telles quelles. Ce sont ses disciples qui l'ont entendu. Eh bien nous-mêmes, nous devons regarder le monde de loin, d'aussi loin que possible, si cela nous est possible, et nous devons pleurer sur lui et prier pour lui. C'est la seule façon de bâtir cette muraille qui nous protégera de sa malice. Ainsi, les auteurs qui ont commenté ce passage nous disent que il nous faut apprendre, mes très chers frères, à pleurer en chrétien et en pénitent sur les maux du monde, bien sûr, mais plus précisément sur les maux de l'Église, sur l'aveuglement des pécheurs, et par le sentiment des intérêts de Dieu. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, qu'ils viennent à la connaissance du salut. Dieu sait ceux qui seront sauvés. Eh bien nous, comme nous ne le savons pas, nous devons intercéder pour eux en pleurant sur leur misère, de telle sorte que, encore une fois, je le répète, quitte à sembler répéter plusieurs fois les choses, mais c'est très important que vous compreniez, à nous protéger de leur malice et à manifester que nous sommes véritablement des enfants du Dieu très miséricordieux, qui est en même temps le Dieu terrible. Vous voyez, il y a souvent, et cela se comprend par un certain côté, mais il y a souvent de la part des chrétiens, mais pas uniquement, pas du tout, de la colère, une certaine colère contre ce que fait le monde. Le gouvernement fait n'importe quoi, le gouvernement ruine la France, etc., ce qui est tout à fait vrai. Semble-t-il que tout est fait pour détruire le peu de choses qui restent. C'est vrai. On invite toutes sortes de gens dans notre pays alors qu'on ne peut plus rien absorber, qu'il n'y a plus rien pour eux, et de toute façon, même s'il y avait... C'est vrai. C'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. Malheureusement, encore une fois, comme nous le répétons assez souvent, il faut faire très attention et se souvenir toujours que la colère de l'homme n'accomplit pas la volonté de Dieu, comme dit l'apôtre. C'est donc une fausse colère. Ce n'est pas une vraie colère. Il y a un abus profane, je le dis très souvent parce que c'est un exemple criant, Mais vous voyez, il y a eu tout un mouvement, je ne sais pas si ça existe encore, mais un mouvement qui s'était intitulé Dies Irae, jour de colère, ou même en français, jour de colère, et qui manifestait, qui faisait toutes sortes de choses. D'ailleurs, il y a eu plusieurs mouvements de ce genre-là, me semble-t-il, si j'ai bien compris la fête. C'est une usurpation. Dies Irae, quand vous chantez, quand vous entendez le Dies Irae dans la liturgie des défunts, personne, on n'emmène pas large. C'est le jour de la colère de Dieu. Et si ceux qui sont, si les justes sont à peine sauvés, dit cette séquence, si le juste est à peine sauvé, à moi qu'arrivera-t-il? C'est pas du tout le jour de colère où je vais manifester ma colère, comme finalement n'importe quel gauchiste, n'importe quel ceci ou cela, n'importe quel écolo, n'importe quel berger qui manifeste contre l'envahissement des pâturages par les loups, etc., qui c'est un droit de la République, je manifeste, qu'est-ce que je fais? Je manifeste comme n'importe qui d'autre. Seulement moi, j'ai l'impression que je suis en colère. Je suis en colère, et j'imagine que ma colère est une sainte colère, puisque j'emprunte les paroles de la liturgie, je suis donc, en quelque sorte, je revendique mon catholicisme en employant les paroles de la liturgie. En réalité, je suis un profane, profanant, encore pire profane que les francs-maçons. Pourquoi? Parce que je ne me rends même pas compte que j'utilise des mots qui sont réservés à Dieu et qui devraient me faire trembler, pour quoi? Pour ne même pas arriver à faire trembler le gouvernement. Parce que le gouvernement a peut-être tremblé lorsque des gens se sont manifestés qui n'étaient tout sauf catholiques. Je pense aux Gilets jaunes, par exemple. Ce sont des gens qui, à un certain moment, ont senti un certain flottement, comme on dit dans le gouvernement, il y a l'année dernière. Et au moins, eux ne s'imaginaient pas combattre pour Dieu. Ils combattaient, c'était simplement des ventres affamés qui cassaient tout, enfin, ou en tout cas qui manifestaient, ils ne cassaient pas forcément tout, mais ils manifestaient pour leur chose. C'est tout à fait. Ce n'est pas du tout une critique. C'est pour dire que. On est toujours les parents pauvres des mondains qui sont toujours plus efficaces dans ce qu'ils ont à faire pour leurs propres intérêts, alors que nous qui croyons vaguement défendre la cause de Dieu, non seulement nous ne la défendons pas, mais encore nous sommes cause, comme dit l'apôtre, que le nom de Dieu est profané chez les gentils, à cause de nous. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Il y a donc une sorte d'impuissance radicale des chrétiens et autres en colère face à ce qu'on appelle le système, qui se retourne contre eux. Pourquoi dis-je qu'ils se retournent contre eux? Parce qu'au bout d'un certain temps, quand on voit que toute notre sainte colère contre le gouvernement, etc., équivaut à des coups d'épée dans l'eau, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on se retourne, comme je l'ai vu récemment, dans un texte qui a été publié récemment, on se retourne et on se retourne contre les chrétiens, mais spécialement contre les prêtres. Le laïc a toujours raison, évidemment, puisque c'est le peuple n'a jamais tort. En revanche, on se retourne contre les prêtres, contre les évêques, et on s'aperçoit que, d'une certaine manière, toute cette colère qui est manifestée, dont on témoigne, on imagine être une sainte colère, parce qu'au moins on combat pour l'honneur de Dieu, pour la vérité, pour les prêtres, il n'y a aucun prêtre, tous les prêtres font leur petit sermon, leur petit train-train, sans parler de ce qui arrive, etc. Et même, j'ai même lu quelqu'un qui disait, qui disait que en réalité les protestants avaient les yeux plus ouverts que nous, parce que le marque de la bête, le masque, etc., que sais-je. Et donc elle incitait les prêtres qui ronronnent dans leur confort à écouter les protestants qui savent mieux. À quel point de stupidité étant-nous descendus, mes très chers frères? S'il faut écouter les protestants pour être au courant de la marque de la bête qui arrive, c'est que vraiment le catholicisme n'a strictement plus rien à dire. Non, soyons sérieux. En réalité, mes très chers frères, dès qu'on usurpe la colère de Dieu, et qu'on n'est pas à l'école des larmes sincères que notre Seigneur a versées sur Jérusalem qui devait être détruite, alors on est livré à l'illusion diabolique et l'on fait absolument n'importe quoi, et chacune de ce que nous croyons nos bonnes actions, ou nos actions de combat pour Dieu, devient un nouveau péché que l'on ajoute à ce que l'on a déjà fait depuis si longtemps. On se retourne donc contre les ministres de Dieu et on les injurie. Et malheureusement, Dieu nous a donné une puissance d'égarement, à eux en tout cas, a donné une puissance d'égarement, de telle sorte qu'on a vu, malheureusement, pendant tout le confinement, on a vu des prêtres, et malheureusement, je ne dirais pas lesquels, en plus ils ne sont pas vraiment proches de nous, mais disons que des prêtres qui n'ont pas arrêté d'attaquer les évêques, sermon après sermon, en disant que les évêques assassinaient les âmes, que les évêques étaient, honteusement lâches, pleutres devant le gouvernement, etc. Et alors, pour notre plus grande honte, il n'y a eu que sur France Info, si j'ose dire, pour parler un peu des actualités, il n'y a eu que sur France Info qu'il y a eu un article qui a montré que pendant tout le confinement, les évêques de France, donc les évêques modernistes, ont été en train d'assiéger le gouvernement pour essayer d'obtenir la réouverture des églises. Et pendant ce temps, pendant que ceux qui finalement leur sont associés n'arrêtaient pas des agonies et d'injures, comme cela arrivait bien sûr depuis longtemps, les évêques essayent de faire des choses discrètement et la piétaille beugle, meugle, au risque de tout faire capoter. Donc, vous voyez, mes très chers frères, si je dis tout ceci, ce n'est pas pour faire un bulletin d'information, c'est pour dire que nous avons tout intérêt à pleurer sur le monde qui se perd, et c'est la seule façon d'être unis à celui qui est le Dieu Tout-Puissant, auquel rien ne résiste, et qui est le Dieu qui fait détruire les villes qui doivent être détruites au moment où elles doivent être détruites. Vous voyez, combien de gens, à un moment ou à un autre, ces dernières années, quand ils ont vu quelques régions qui menaçaient de faire sécession, etc., se sont référés à des prophéties plus ou moins autorisées, plus ou moins pas autorisées, et qui prédisaient que c'était la suite, voilà, il y allait avoir la guerre, etc. Et puis finalement, tout ceci est retombé à l'eau. Rien ne s'est passé. Alors je ne suis pas comme ceux que dénonce Saint-Pierre qui disent que rien ne se passera jamais. Je dis simplement que la colère de l'homme n'accomplit pas la volonté de Dieu. Et nous ferions mieux, mes très chers frères, si nous voulons ne pas être enveloppés dans la colère qui vient et le châtiment qui vient, car ils viennent et nous sommes, et ils ne sont plus très loin, si Dieu le veut, je n'en sais rien, mais en tout cas, nous sommes plus près de la fin que du début. Si nous ne voulons pas être enveloppés dans la colère, enveloppons-nous de la charité, mes très chers frères. Ayons pitié de ce monde qui se perd. N'insultons pas ceux qui se perdent, ne les injurions pas. Ils sont livrés à une puissance de perdition parce que Dieu ne veut pas, semble-t-il, leur faire la même grâce qu'il nous a faite à nous. Et si Dieu ne nous avait pas ouvert les yeux et ne nous avait pas appliqué les mérites de notre Seigneur Jésus-Christ, nous serions comme eux, sans Dieu, sans espérance dans le monde, étrangers aux alliances et sur la voie de la perdition. Voilà ce que nous devons tirer de la leçon de notre Seigneur qui pleure sincèrement sur cette Jérusalem qui tuait les prophètes et qui allait le tuer et qui allait être détruite une génération plus tard. C'est pour cela, mes très chers frères, que l'Église nous exhorte en faisant référence à nos pères dans le désert, dans l'Épître. Mes frères, ne nous abandonnons pas aux mauvais désirs comme l'ont fait nos pères dans le désert. Ne devenons pas idolâtres comme certains d'entre eux. Ne commettons pas d'impureté. Ne tentons pas le Christ comme quelques-uns d'entre eux. Ne murmurons pas comme quelques-uns murmurèrent et qui furent frappés de mort par l'ange exterminateur. Prenons garde, mes très chers frères, de mépriser nos pères dans le désert, les Hébreux dans le désert, parce que bien souvent, nous ne faisons pas mieux qu'eux. Souvent, nous disons, regardez, ces Hébreux étaient dans le désert, ils avaient la colonne de nuée pendant la journée qui les abritait du soleil, ils avaient la colonne de feu pendant la nuit qui les protégeait des dangers de l'obscurité, ils avaient le tabernacle avec Moïse, ils avaient Aaron, ils avaient Marie, la prophétesse, ils avaient tout ce qu'il fallait, et pourtant, ils murmuraient à la première occasion. Ils avaient le rocher spirituel qui les suivait et qui les abreuvait, et dès qu'il n'y avait plus d'eau, ils recommençaient à crier comme si Moïse, ou plutôt comme si Dieu, n'avait jamais rien fait pour eux. Quels barbares, quels abrutis, etc. Faisons très attention, mes très chers frères, faisons très très attention. Nous ne valons pas mieux qu'eux, et même d'une certaine manière, chaque révolte de notre part est pire que la leur, parce qu'après tout, ils vivaient avant l'incarnation, et nous vivons bien après. Quand Dieu nous châtie, mes très chers frères, nous ne le voyons même pas. Eux au moins, d'une certaine manière, savaient que Dieu les châtiait, puisque le châtiment suivait immédiatement leur prévarication. Et nous, bien souvent, le châtiment nous atteint, et il nous semble que c'est toujours la faute des autres. C'est la faute des autres. Il y aurait bien des choses à dire là-dessus, mais nous sortirions de notre propos. Saint Paul, à la fin de l'Épître, dit ceci. Ainsi donc, à nous qui croyons être plus forts que nos pères dans le désert, ainsi donc que celui qui croit être ferme prenne garde de tomber. Que celui qui croit être ferme prenne garde de tomber. Un auteur nous dit ceci. La défiance de soi-même est le fondement de la force chrétienne. La défiance de soi-même est le fondement de la force chrétienne. On prévient bien des chutes quand on se tient à terre par l'humilité. Alors vous allez dire, oui, c'est évident, si on est vautré par terre, on ne peut pas tomber plus bas. Ce n'est pas ce que cet auteur veut dire, ce n'est pas ce que nous voulons dire. La défiance de soi-même est le fondement de la force chrétienne. Si nous voulons être, comme je l'ai dit, très fort contre le monde et inébranlable contre ses tentations, pleurons sur lui. Si nous voulons être forts face à la tentation, ne méprisons pas nos pères dans le désert, mais tâchons d'apprendre des leçons d'eux, de telle sorte que, nous confessant tout aussi faibles qu'eux, nous puissions mériter de recevoir la grâce qui nous rendra plus forts qu'eux. La défiance de soi-même est le fondement de la force chrétienne. Vous voulez être fort, vous voulez être des hommes, mes frères, eh bien, soyez humbles et défiez-vous de vous-même. Vous allez dire, mais c'est justement le contraire. Eh bien, écoutez, refermez un peu les livres de Nietzsche que vous lisez en cachette et ouvrez l'Évangile. Et vous apprendrez que, justement, la force de l'homme, la force du chrétien, n'est jamais que la force de Dieu et elle se manifeste nécessairement dans la faiblesse de l'homme. La défiance de soi-même est le fondement de la force chrétienne. Apprenons de leurs péchés. Passons très rapidement en revue les péchés de nos pères dans le désert, très rapidement. Ne devenons pas idolâtres, comme certains d'entre eux. C'est à l'épisode du veau d'or, Moïse leur a fait prendre l'engagement auprès de Dieu qu'ils obéiraient à tous ses commandements. Il est monté sur la montagne pour aller chercher le code de l'Alliance, et ne le voyant pas revenir, ils ont fait un veau d'or, et ils ont mangé et bu, et ils ont dansé en son honneur, en le proclamant le Dieu qui les a fait sortir d'Égypte. Ne devenons pas idolâtres comme eux. L'idolâtrie, nous disent les commentateurs, ici c'est un esprit mondain qui se répand dans l'amour des créatures, dans l'amour ou la confiance dans les créatures. Vous voyez, ils voulaient absolument voir le Dieu qui les avait sauvés. Alors vous allez dire, mais un veau est ridicule, c'est un animal ridicule. Mais c'est-à-dire qu'ils avaient vu le dieu taureau des Égyptiens, et ce dieu taureau des Égyptiens était un dieu qui inspirait confiance, puisque c'est un animal qui est fort, c'est un animal qui est très puissant, et il faut beaucoup de force et beaucoup d'habileté pour tuer un taureau, comme on le voit dans les corridas. Donc, le taureau est un symbole adéquat, semble un symbole adéquat de Dieu. C'est pour cela que nos pères ont voulu adorer le veau d'or. Eh bien, mes très chers frères, nous-mêmes, bien souvent, nous nous imaginons que nos bonnes idées antidémocratiques, antirépublicaines, nos bonnes idées d'impérialisme chrétien, de reconquête, etc., ce sont des idoles. Ce sont des idoles, pourquoi ? Parce que ça nous amène à mépriser ce qui est le fondement du christianisme, c'est-à-dire la soumission à Dieu et l'ordre. Donc c'est l'esprit mondain, tout ceci est l'esprit mondain. Que vous ayez l'esprit mondain dans le sens du vent ou l'esprit mondain dans le contraire du sens du vent, c'est toujours l'esprit mondain. Vous voyez, mes très chers frères, je ne jette pas la pierre, je dis simplement que tout ceci, c'est de l'idolâtrie. Mais nos pères ont aussi été impurs. Vous voyez, ne commettons pas d'impureté. C'est le fait de laisser aller notre vieil homme à ses penchants et d'oublier qu'il a été enseveli par le baptême. C'est le fait de se laisser aller à tout ce que l'on veut, de telle sorte que, n'ayant aucune retenue ou si peu, nous comportions comme si nous n'avions pas été marqués par le sang précieux de l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Vous voyez, et c'est une chose terrible que de sembler oublier que nous sommes marqués par le sang de l'agneau, puisque de même que nos pères en Égypte, quand ils étaient encore en Égypte, ont été épargnés par l'ange exterminateur, dans la mesure où ils ont marqué les linteaux de leur porte du sang de cet agneau pascal, nous-mêmes, si nous nous dépouillons du sang de cet agneau, eh bien, nous devenons la proie éventuelle de l'ange exterminateur, et nous savons qu'il arrive. Et nous savons dans l'Apocalypse que les anges viendront, et que, si ce n'est déjà fait, et qu'ils verseront ces coupes sur la terre, et qu'il y aura de grands malheurs qui se passeront. Si nous voulons échapper, si nous voulons être marqués du sceau de Dieu, qui fera que nous échapperons à tous les malheurs, si Dieu le permet, en tout cas spirituellement, eh bien, il se trouve que nous ne devons pas laisser libre cours à notre vieil homme. Notre vieil homme doit être tenu très mortifié, de telle sorte que nous ne n'imitions pas nos pères dans le désert, de telle sorte qu'il en périt 23 000 en un seul jour. Et puis, il est dit encore, ne tentons pas le Christ comme quelques-uns d'entre eux qui périrent par les serpents. Vous savez, l'épisode des serpents brûlants dans le désert. Ne tentons pas le Christ. Tenter le Christ, nous disent les commentateurs, c'est se retirer de l'ordre que sa sagesse a établi pour notre conduite. Dès que nous sortons de l'ordre des choses, dès que nous sortons de l'ordre établi par Dieu, alors même qu'on y serait encouragé, alors même que il y aurait des gens qui nous y auraient encouragés les uns ou les autres, il se trouve que sortir de l'ordre, c'est tenter le Christ. C'est tenter le Christ. C'est se livrer à l'usurpation et à l'indiscipline. Eh bien, il ne faut pas s'étonner si le serpent ancien vient et nous mord et nous fait mourir dans d'atroces souffrances qui ne sont pas forcément toujours ressenties comme telles. Les atroces souffrances de la morsure du serpent, ça peut très bien être une sorte de délire génial qui nous fait devenir chef d'école, chef de file et qui nous fait, tel un aveugle et qui conduit d'autres aveugles, eh bien, précipiter le maximum de gens dans la fosse que nous n'aurons pas vu venir. Vous voyez, être mordu par le serpent, ce n'est pas forcément quelque chose qui est douloureux. En revanche, pour être délivré du serpent, il faut regarder avec foi le serpent en croix, mis par Moïse en croix et revendiqué par notre Seigneur à devant Saint Nicodème. Si nous regardons ce serpent en croix, nous apprenons l'humilité, nous rentrons dans l'ordre, et alors il faut y rester dans l'ordre. Et puis, ne murmurons pas, dit Saint Paul, ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux qui furent frappés de mort par l'ange exterminateur. Le murmure ici, c'est un murmure contre les autorités légitimes de l'Église. C'est s'élever contre l'autorité légitime, nous en avons parlé il y a un instant, et s'élever contre les autorités de l'Église, c'est s'attaquer à Dieu même. Il y a donc une impuissance radicale du christianisme aujourd'hui, qui est systématiquement en train de s'attaquer à tout ce qui, je ne dirais même pas, est l'autorité, mais même à forme d'autorité. Souvent, on nous demande pourquoi est-ce que nous manifestons un certain respect vis-à-vis des autorités modernistes par rapport à François, etc. C'est très simple, mes très chers frères, c'est très très simple. C'est un respect prophylactique. Si nous méprisons, nous nous attachons passionnellement à ces personnes-là. Si nous les respectons avec les formes de la politesse, simplement de la politesse, nous nous détachons d'elles. Vous voyez, ça ne veut pas dire que si c'était des autorités légitimes, nous devrions les respecter avec politesse et cela nous rapprocherait d'elles. Mais il y a un danger à s'exciter passionnellement contre ceux qui sont à l'extérieur de l'Église et surtout qui sont les ennemis de l'Église. Il y a un très grand danger et ce danger, on n'y remédie qu'en versant des larmes de la charité. Et cette charité peut se manifester simplement par une certaine politesse, un certain détachement. Tout ceci, nous devons nous en nourrir, mes très chers frères, nous, pour qui ces choses ont été instruites, nous, dit Saint Paul, qui vivons à la fin des temps, qui nous trouvons à la fin des temps. Nous nous trouvons véritablement à la fin des temps. Nos pères dans l'Église primitive étaient déjà à la fin des temps, mais nous nous sommes encore plus proches de la fin que eux ne l'étaient. Et pourtant, nous l'étions déjà. Nous n'avons plus beaucoup de temps, mes très chers frères, pour faire pénitence, et c'est pour cela que nous devons écouter cette parole de notre Seigneur qui dit « assidûment en ce jour qui t'est donné, inac die tua, en ce jour tient ». Vous voyez, le jour qui nous est donné, c'est aujourd'hui, mes très chers frères. C'est aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, comme dit l'Écriture. La fin des temps, c'est le temps qui s'étend de la résurrection jusqu'à la fin du monde. Nous sommes vers la fin de la fin des temps. C'est encore le temps de faire pénitence. Et nous devons véritablement essayer de comprendre en quoi consiste le fait de faire pénitence. Bienheureux celui qui comprend. Dieu est fidèle, dit Saint Paul. Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Il nous faut donc profiter de la tentation pour nous affermir en Dieu. Si nous n'utilisons la tentation que pour nous écarter de Dieu, alors évidemment, nous sommes en dehors de la volonté de Dieu. Alors vous allez dire, et si Dieu sait que je ne vais pas profiter de la tentation, pourquoi il me laisse être tenté, être éprouvé? Mais c'est que la vie sur terre est un combat, comme dit Job. La vie sur terre est un combat. Que nous soyons chrétiens ou que nous ne soyons pas chrétiens, nous avons ce que les chrétiens appellent des tentations. Il ne faut pas s'imaginer que parce que les non-chrétiens, les non-baptisés ou les mécréants ne sont pas chrétiens, qu'ils ne sont pas éprouvés dans leur vie. Ils ont toutes sortes de choses qui leur arrivent. Ils ont aussi un certain bonheur que le chrétien n'a pas, puisqu'il n'est pas en paix avec le monde. Mais enfin, quand même, ce n'est pas une sinécure d'être mondain. Donc, pourquoi est-ce que ça le serait pour être en étant chrétien? D'autant plus que nous sommes ici pour faire notre salut avec crainte et tremblement. Donc voyez, mes très chers frères, écoutons bien ce que notre Seigneur dit. Assidûment, en ce jour qui t'est donné, tu connaissais ce qui peut te procurer la paix. Qu'est-ce qui peut nous procurer notre paix? C'est la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu doit se rechercher. Elle ne doit pas se rechercher comme le fruit d'une sorte de révélation privée que nous aurions pour savoir ce que nous devons faire. Il ne suffit qu'à regarder au Fils de Dieu pour savoir ce que nous devons faire. Nous ne pouvons triompher des tentations que dans la mesure, par exemple, du monde, que dans la mesure où nous avons véritablement eu compassion du monde. Si nous avons du monde qui se perd, si nous avons compassion pour les gens qui se perdent et que nous prions Dieu pour eux, d'une façon générique ou d'une façon particulière, parce que nous en connaissons particulièrement, lorsque la tentation de faire comme eux se présentera, nous bénéficierons d'une part d'un certain aspect des prières que nous aurons fait pour eux, cela nous reviendra, et en même temps, psychologiquement parlant, nous nous dirons, nous, avec plus de facilité, mais si j'ai prié pour la conversion de ces gens qui font ces choses-là, comment est-ce que je le ferai moi-même? Vous voyez, avec l'aide de Dieu, la grâce de Dieu nous sera donnée, et malheur à celui, évidemment, qui utilise en vain la grâce que Dieu lui donne. Alors vous allez dire, toutes ces choses sont compréhensibles, mais qu'elles sont bien difficiles à mettre en pratique, ne serait-ce que parce que nous nous sentons si faibles, si dépourvus face à la tentation. Eh bien, mes très chers frères, l'Église nous enseigne à prier aujourd'hui. Écoutez bien ce qu'elle nous dit, parce que c'est très simple, et c'est exactement la prière que nous devons prier. Prêtez l'oreille de votre miséricorde, Seigneur, aux prières de ceux qui vous invoquent, et afin d'exaucer leurs vœux, faites-leur demander ce qui vous agrée. Les oreilles de Dieu sont grandes ouvertes. Pateant ores misericordiae tui domine. Littéralement, ça signifie que vos oreilles, les oreilles de votre miséricorde, Seigneur, soient grandes ouvertes. Soient ouvertes, oui, quand on dit quelque chose est patent, c'est-à-dire quelque chose est flagrant. Eh bien, les oreilles de Dieu sont grandes ouvertes, si j'ose dire. C'est quelque chose, Dieu pourrait fermer son oreille à notre cri. Eh bien, nous demandons, l'Église nous fait demander à Dieu que ses oreilles soient grandes ouvertes aux prières, prêchibus supplicantium, de ceux qui le supplient. Encore faut-il supplier Dieu. Mais allons plus loin. Et ut petentibus desirata concedas, et afin que vous concédiez, que vous accordiez à ceux qui demandent les choses qu'ils désirent, donc on est là, on est à deux doigts de l'exaucement absolu, complet. Quoi donc? Fac eos, faites-les, Seigneur, postulare, demandez, postulez, demandez, quetibi sunt placita, les choses qui vous sont agréables, les choses qui vous plaisent, en fait, les choses que vous agréez. Alors vous allez dire, on tourne en rond, c'est-à-dire que Dieu ne nous accordera jamais que ce qui lui plaît. Oui, mais voyez-le sous un autre sens, mes très chers frères. Demandez-lui ce qui lui plaît, et il vous l'accordera, sachant que notre Seigneur a dit que un père, quelque méchant qu'il soit, ne donnera pas un scorpion à son enfant qui lui demande un œuf. Il ne lui donnera pas une pierre si le petit enfant lui dit « Papa, donnez-moi du pain, j'ai faim, s'il vous plaît ». Eh bien, si vous qui êtes méchant savez, dit notre Seigneur, et il le dit à l'homme générique, l'homme marqué par la chute, si vous qui êtes méchant savez donner des bonnes choses à vos enfants, à fortiori, à combien plus forte raison votre Père Céleste vous donnera-t-il le Saint-Esprit? Et donc, c'est-à-dire tout ce dont nous avons besoin pour notre bien. Cessons de demander des choses qui ne plaisent pas au Seigneur, mes très chers frères, et de telle sorte que nous cessions de murmurer contre lui, de récriminer contre lui, donc de le tenter, en réalité, comme nos pères dans le désert, en disant « Dieu ne m'exauce pas, Dieu ne m'écoute pas ». Cessons de demander des choses qui ne plaisent pas à Dieu, et demandons des choses qui plaisent à Dieu. Vous allez dire, mais quelles sont ces choses qui plaisent à Dieu? Ce sont des choses qui peuvent servir à notre salut. Si nous avons des tentations qui nous accablent, si nous avons des épreuves qui nous accablent, et que nous demandons à Dieu univoquement qu'il nous les enlève, probablement que Dieu ne nous les enlèvera pas. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il est très certain que sans ces épreuves, nous serions happés par le monde. Alors vous allez dire, mais Dieu est méchant. Non, ça veut dire qu'il faut demander à Dieu que sa volonté se fasse pour nous vis-à-vis de ces épreuves, de telle sorte que, en profitant, nous puissions aller un peu plus loin, avec l'aide de sa grâce. Écoutez ce que dit un commentateur qui a commenté cette oraison. Le moyen d'obtenir toujours, de toujours obtenir l'effet de sa prière, c'est de ne jamais rien demander que ce qui plaît à Dieu, ce qui est conforme à sa volonté sainte, et ce qui sera toujours le plus utile, et ce sera toujours le plus utile pour nous, le plus favorable à nos véritables intérêts. Mais il n'y a que l'Esprit Saint qui puisse nous faire prier ainsi. Par nous-mêmes, dit l'apôtre, nous ne savons pas ce qu'il faut demander. L'avenir nous est inconnu. Nous ignorons quel usage nous ferions de tels biens que nous oserions de solliciter d'une façon inopportune. Il nous dit donc, il nous fait dire à Dieu, dictez-nous nous-mêmes, dictez-nous vous-même, Seigneur, nos prières. Inspirez-nous les pensées, les sentiments qui trouvent de l'écho en vous. Mettez dans nos cœurs le désir et sur nos lèvres, dans nos cœurs le désir et sur nos lèvres l'expression de ce qui peut contribuer le plus efficacement à votre gloire et à notre salut. Vous voyez, mes très chers frères, nous sommes à deux doigts de l'exaucement le plus absolu dans ces derniers temps, dans ces temps qui sont les derniers, dans ce jour qui est le jour de la miséricorde de Dieu. Je vous disais au début de ce sermon que tout est fait pour nous encourager dans cette et nous consoler dans les textes de la messe du 9e dimanche après la Pentecôte. Nous sommes à deux doigts de l'exaucement. Il ne nous manque plus que de cesser de nous dissocier du Christ dans notre attitude, dans son attitude par rapport au monde qui se perd, et de cesser de demander à Dieu des choses qui ne lui plaisent pas. Mais comme nous ne pouvons pas demander à Dieu des choses qui lui plaisent, parce que nous n'en avons pas la force et nous n'avons pas l'intelligence, demandons au Saint-Esprit et disons à Dieu, Seigneur, inspirez à moi-même ces paroles que je dois vous demander. Vous allez dire, mais justement, nous ne disons pas exactement, nous ne savons, ce n'est toujours pas les bonnes paroles. Si nous disons, Saint-Esprit, priez vous-même à ma place et faites que votre prière, qui sera la mienne, à laquelle j'adhère de tout mon cœur, vienne aux oreilles qui sont grandes ouvertes de notre Dieu. Alors, mes très chers frères, très, très, très sincèrement, vous pouvez savoir que vous allez être exaucés. Non pas ma volonté, mais la vôtre. Vous voyez, quand nous ne savons plus quoi prier, quand il nous semble que nous avons demandé pour nous-mêmes les choses les meilleures et que Dieu ne nous a pas accordées, il faut dire, Seigneur, non pas ma volonté, mais la vôtre. C'est les paroles mêmes du Christ, quelques jours après, qu'il ait pleuré sur Jérusalem. Non pas ma volonté, mais la vôtre. C'est l'unique manière de connaître ce qui, aujourd'hui, peut nous procurer la paix avec Dieu, c'est dans ce jour qui était le jour de Jérusalem et qui est le jour d'aujourd'hui, c'est de faire sa volonté. Et si nous ne savons pas quoi demander, disons, Seigneur, que votre volonté se fasse et non la mienne. N'oublions pas de dire « et non la mienne ». Que votre volonté se fasse, Seigneur, et non la nôtre, et vous nous exaucerez dans votre immense miséricorde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Merci.